RCF.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Henri IV. Henri IV, le roi qui a réconcilié les Français en deux décennies de règne au lendemain d'une atroce guerre civile, ou plutôt des huit guerres civiles que furent les huit guerres de religion. Il a redressé le pays. Ce roi qui a changé de religion, ou plutôt de confession religieuse à 6 reprises, ce roi séducteur qui était un homme, disait-on, à se faire aimer par les pierres elles-mêmes, eh bien nous allons le redécouvrir avec vous. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on peut vous parer d'un titre glorieux, vous êtes historien des rois. Avec votre Henri IV publié chez Perrin ces jours-ci, eh bien vous achevez un ensemble monumental qui se veut la galerie des 5 rois Bourbons d'Ancien Régime. À travers Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, vous remontez en fait aux origines de la France moderne. Voilà, nous partons donc pour une heure de conversation avec Jean-Christian Petit-Fils autour de Henri IV et surtout Henri IV, qu'a-t-il apporté à notre pays encore pour aujourd'hui ?
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils pour sa monumentale biographie de Henri IV chez Perrin, plus de 800 pages qui se lisent très facilement, qui se lisent, dit-on, comme un roman, mais en tout cas qui se lisent au galop, un peu comme a vécu ce prince gascon. Alors Jean-Christian Petit-Fils, il faut d'abord planter un peu le décor, si vous le voulez bien. Quel était l'état de la France à l'époque où naît le jeune Henri de Navarre? Quelle était sa population, son territoire? Comment était notre pays?
Alors, la France est beaucoup plus petite que l'Hexagone actuel. Il faut bien voir qu'il y a à peu près entre un quart et un tiers en moins. Mmh. Donc, elle est soumise aux invasions par le Nord. Donc, l'Artois, la Flandre ne font pas partie du domaine français.
En face de nous, ce sont donc les Espagnols.
Alors, il y a en face, en effet, les Pays-Bas espagnols qui sont en guerre, qui vont bientôt entrer en guerre intestine, puisque ça va conduire à la séparation d'un côté entre ce qu'on va appeler les provinces unies protestantes et les Pays-Bas espagnols catholiques qui correspondent en gros à la Belgique plus le Luxembourg.
On voit déjà les tensions religieuses qui traversent ce territoire.
Et puis vous avez donc à l'est la France ne possède pas l'Alsace ni la Lorraine. La Franche-Comté est espagnole. Et la frontière est très très réduite aussi du côté de la frontière suisse, le pays de Gex et autres. Et puis, vous savez,
au sud-est,
le comté de Nice, tout ça ne fait pas partie de la France. Donc, on a une France réduite.
Une petite France.
Une petite France. Oui. Et puis, très morcelée aussi. Oui. Il faut bien voir que bon, la Bretagne est...
vient d'arriver, il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est ça, au XVIe siècle. Et elle est en partie autonome. Enfin, elle vit sa vie, disons. Mmh. Elle va la vivre même très longtemps pendant le règne d'Henri IV. Donc, on a un pays qui est réduit. La population, ça doit être à peu près 16 millions d'habitants. C'est donc, ça n'a aucun rapport avec la population d'aujourd'hui. C'est un pays qui va se trouver en but à des guerres, vous l'avez signalé, des guerres de religion, qui sont aussi des guerres, je dirais, néo-féodales.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'État va se trouver fort affaibli par la dynastie des Valois, l'entreprise des Valois en Italie. Cet État...
Est-ce qu'on peut dire que l'État existe ?
Pas bien. L'État moderne, oui. Véritablement. C'est un État qui se situe au-dessus d'une communauté de corps, d'États provinciaux, de villes plus ou moins autonomes.
Un grand morcellement.
Il y a un très grand morcellement.
Et des tensions centrifuges permanentes.
Voilà. L'État n'arrive pas à s'imposer. Mmh. Et ça va être justement la période moderne qui va permettre à l'État de naître.
Oui,
le règne d'Henri IV est essentiel. C'est donc, nous avons des grands. c'est-à-dire des grands personnages,
des princes, des ducs
qui ont énormément d'ambitions, des ambitions territoriales, et qui vont se servir de la division religieuse pour se constituer des clientèles.
Mmh.
Et donc, soit qu'ils adoptent la religion réformée, soit qu'ils adoptent la religion catholique.
Soit qu'ils en changent.
Oui, et à chaque fois, bien entendu, l'ensemble de leur clientèle, de leurs vassaux, les suit. C'est donc une. Il n'y a pas seulement des fractures, une fracture religieuse. C'est quelque chose d'important.
Il y a des fractures politiques.
Et énormément d'ambition. Tout cela au détriment d'une unité nationale.
Voilà, évidemment. Qui est toujours en train de se faire. Alors, dans ce contexte-là, donc on sait que Henri était un prince de Navarre. Qu'est-ce que la Navarre ?
Alors, la Navarre, c'est un petit royaume indépendant. Qui lui aussi a connu malheureusement beaucoup d'avatars et de tragédies. Les 4/5 de la Navarre se trouvent absorbés par l'Espagne, Pamplune. Donc c'est une province espagnole. Reste la petite frange française. Tout petit pays de montagnards qui n'ambitionne qu'une chose, c'est de récupérer cette partie espagnole.
Donc, nous sommes au pied des Pyrénées, il faut le rappeler.
Voilà, bien entendu. Voilà. Et les souverains, donc, n'ont qu'une idée, en particulier Henri II d'Albret, qui est le grand-père d'Henri. Eh bien, lui veut récupérer et se laisse entraîner par les sirènes de Philippe II, roi d'Espagne, qui lui promet monts et merveilles. En réalité, il s'agit d'absorber ce petit bout de royaume. Et puis, il y a à côté de cela, il y a la vicomté de Béarn.
Oui.
Et la vicomté de Béarn, ça appartient normalement au royaume de France, mais cette province périphérique, elle aussi, on parlait de la Bretagne tout à l'heure, elle aussi a des velléités d'indépendance, rêve de se constituer en une souveraineté.
Mmh. Voilà une situation très très complexe en fait.
Très complexe. Et au fond, Henri IV, le futur Henri IV, provient d'une dynastie périphérique, disons.
D'une petite dynastie périphérique.
Alors,
loin de Paris.
Voilà, très loin de Paris. Henri II, dont je parlais, Henri d'Albret, qui est aussi en même temps gouverneur de Guyenne, donc il a des responsabilités au sein du royaume de France, et roi de Navarre, et puis donc vicomte de Béarn. Et il est épousé, Marguerite de Valois-Angoulême, la sœur de François Ier, la fameuse Marguerite d'Angoulême.
Donc on n'est pas loin de la famille royale.
On n'est pas loin
de la famille royale.
Voilà.
Il y a un lien du sang.
Voilà. Et ce couple va donner naissance à une fille qui s'appelle Jeanne d'Albret, fille héritière du royaume, laquelle va épouser un prince de Bourbon, Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, qui descend directement de Robert, comte de Clermont, fils de Saint-Louis.
Vous êtes un vrai généalogiste, Jean-Christophe.
L'historien est bien obligé de faire la généalogie. Donc, il descend de Saint-Louis et il descend aussi des Valois par Marguerite de Valois, sœur de François Ier, cette fameuse Marguerite, auteur de l'Heptaméron, femme très intelligente, qui est en même temps libre, qui va mener une vie tiraillée entre la cour de France
C'est dans cette famille-là que naît le jeune Henri. Donc, il est le fils de Jeanne d'Albret, le petit-fils de Henri d'Albret.
Et d'Antoine de Bourbon.
Et d'Antoine de Bourbon, voilà. Et vous écrivez, Jean-Christian Petit-Fils, qu'il grandit à l'ombre de Catherine de Médicis, femme d'Henri II, femme du roi de France, elle-même mère de Charles IX, puis d'Henri III. Donc, tous ces gens-là sont des prétendants au trône.
Alors, le trône donc est occupé par Henri II, le mari de Catherine de Médicis, Catherine de Médicis qui est une femme intelligente, qu'on a d'ailleurs noircie à l'extrême avec une intrigante, une empoisonneuse italienne, mafieuse, quoi. Oui, voilà. Elle a ses défauts, c'est évident, mais c'est une femme qui a le sens de l'État et le sens de la famille. Et qui veut réconcilier, unir ses enfants. Et en particulier, on songe à ce petit prince de Vianne, puisque Henri va porter le nom de prince de Vianne. C'est un petit territoire qui l'ancre pleinement dans la Navarre et le Béarn. Et cette Catherine donc va avoir l'idée de marier sa fille Marguerite de Valois, la fameuse reine de Margot, avec Henri. C'est l'idée aussi d'Henri II, qui dès la première visite va demander au petit s'il veut devenir d'abord son père et puis son gendre.
Dès ses jeunes années. En fait, Henri de Navarre s'inscrit dans le cercle très étroit des prétendants au trône.
Absolument.
Alors même qu'il en est très éloigné territorialement.
Alors, il en est très éloigné. Et puis même familialement, parce qu'il y a les enfants de Catherine de Médicis, c'est-à-dire François II, qui va devenir François II. Et il y a Charles IX. Et il y a Henri, qui va devenir Henri III. Puis le François, duc d'Alençon et d'Anjou.
Donc notre Henri, futur Henri IV, n'est pas au premier rang.
Non, exactement.
Voilà, c'est ça. Alors, il grandit comme un jeune prince gascon. Je me suis demandé, en vous lisant, Jean-Christian Petit-Fils, quelle langue parlait-il, Henri de Navarre?
Il a pris le français, bien sûr, mais enfin, il parlait le patois gascon, le patois béarnais, plutôt.
C'était de l'occitan,
C'est une branche de l'occitan, oui, bien sûr.
Donc, il était polyglotte.
Oui, bien sûr. Puis, il parlait normalement espagnol aussi.
Oui, aussi.
Donc, il a reçu une très bonne éducation, il faut le dire. Il a été élevé au départ, c'est la volonté de Jeanne d'Albret et puis de son père Henri II, à la dure. On l'envoie au château de Coaraz, qui existe toujours, au sud-est de Pau. Et là, il va mener pendant 2-3 ans, avec des allers-retours d'ailleurs à la cour de France, 2-3 ans, une vie avec les petits paysans, s'amusant... et puis parlant le patois,
une vie à la dure,
très simple et en même temps très simple.
Oui. Voilà. Et cette proximité avec le peuple lui restera.
Alors voilà, c'est ça qui va rester. Il va être l'homme de la proximité, l'homme de aimant le parler avec les paysans. Même une fois monté sur le trône, il sera très très proche des paysans. Et ce qui va expliquer aussi le mythe henricien et puis au fond la façon dont nous l'appréhendons lui-même. Parce que nous aimons bien ce roi
Henri,
proche
petit père du peuple,
Voilà.
Alors voilà, maintenant le décor est situé. On va rentrer bientôt dans cette succession incroyable que vous décrivez, Jean-Christian Petit-Fils, de massacres, d'intrigues, de revers, de rebonds, qui vont faire que ce jeune prince gascon va devenir un roi. Mais avant, je vous propose un premier extrait musical, une première pause musicale, avec l'une des musiques dont on sait, enfin tout du moins c'est ce que vous nous expliquez, Jean-Christian Petit-Fils, qu'elle fut appréciée par Henri de Navarre, une musique qui date de 1581, Circé ou le ballet comique de la Rouanne, et nous allons entendre le premier intermède, le chant des tritons. Voilà, nous étions en 1581, Circé ou le ballet comique de la Rouanne, de la Reine, pardon. On sait que c'était l'un des morceaux favoris d'Henri IV. C'était le premier intermède, le chant des tritons, interprété par Caroline Pelon sous la direction de Gabriel Garrido. L'ensemble était le centre de musique ancienne de Genève avec l'ensemble Elima.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, notre invité aujourd'hui, l'historien Jean-Christian Petit-Fils, pour sa monumentale et passionnante biographie d'Henri IV, publiée chez Perrin. Alors avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, nous venons de brosser le tableau du paysage général de la petite France de l'époque, la France réduite, où l'État n'existait pas tout à fait, une France morcelée et une France parcourue de tensions religieuses et politiques. Alors maintenant, le moment est venu d'ouvrir ce dossier de la question religieuse. Henri de Navarre, écrivez-vous, Jean-Christian Petit-Fils, est baptisé catholique, mais sa mère abjure, devient protestante, alors que son père, Antoine de Bourmont, lui, penche du côté catholique. En toute hypothèse, Henri de Navarre a reçu une éducation calviniste.
Oui, il est baptisé donc catholique et sous l'influence de sa mère, il va devenir calviniste. Donc les guerres de religion, et en tout cas la séparation entre le catholicisme et la réforme, le protestantisme, qui apparaît en 1517 avec les thèses de Luther, va gagner la France à partir des années 1555-60, et c'est à ce moment-là que Jeanne d'Albret, à la Noël de 1560, abjure, et tandis qu'Antoine, le père, reste catholique, mais pour des raisons opportunistes, parce qu'il est premier prince du sang et qu'il veut peser sur le pouvoir. Et le petit Vendômé, puisqu'on l'appelle à ce moment-là Vendômé, du nom de... du duché de Vendôme, qui appartient au Bourbon, eh bien, lui est tiraillé entre le père, la mère. Il va à la cour, il va faire le fameux Tour de France avec Charles IX de janvier 1564 à mai 1567. Très important pour sa formation, puisque
son initiation politique.
Exactement, avec donc les enfants de Catherine, il est là sous la surveillance de Catherine, et il apprend, donc il voit du pays, et toute sa vie d'ailleurs il ne cessera de chevaucher, de parcourir la France. C'est le roi, c'est le roi de France qui connaît le mieux le royaume de France, ça, c'est indiscutable. Alors ces guerres, donc au début il y a des discussions, il y a le fameux colloque de Poissy 1561. Pendant ce temps-là, à Trente, les pères de l'Église, enfin les cardinaux catholiques se réunissent et on discute de fond, de théologie face à la réforme qui s'étend, qui gagne,
qui est corrosive,
exactement, sous un prétexte de revenir à la pureté de l'Évangile. Voilà. On remet en cause un certain nombre de choses,
dont le pouvoir politique.
Oui, mais sur le plan théologique, la notion de sacrifice de la messe, par exemple, qui était très importante, la présence réelle, le culte des saints, l'existence du purgatoire, l'adoration eucharistique, tout cela est remis en cause par les protestants.
Donc, ce sont des tensions extrêmement fortes.
Alors, ce sont des tensions très fortes, puisque la religion domine complètement la société, structure la société. Ça commence, les guerres de religion, mais on va pas les détailler toutes parce que...
Non, ça serait trop compliqué.
Mais ça commence par le massacre de Vassy en mars 1562 avec un duc de Guise qui massacre dans une grange des protestants. Et c'est à partir de là que tout va s'enchaîner.
Déjà, le sang coule.
Le sang coule. Alors, le petit Henri, lui, va être à la cour pendant cette bonne période, une bonne partie de sa jeunesse, de 8 ans à 13 ans. Je vous l'ai dit, donc, il fait le Tour de France. Sa mère, il est très influencé par sa mère, qui est une femme autoritaire et qui a épousé un calvinisme très, très fort,
très dur,
à tel point qu'elle va chasser tous les prêtres du Béarn, et donc interdire la religion catholique. Au cours de... Henri va être nommé, à la mort de son père, gouverneur de Guyenne, et va suivre sa mère pendant la deuxième, puis la troisième guerre de religion, qui est menée par le prince de Condé, un des cousins d'Henri.
Donc il va au combat.
Il s'installe avec sa mère à La Rochelle en 1568.
La Rochelle qui deviendra une place forte.
Il a 15 ans, qui est une place forte.
Protestante.
C'est une ville très importante. C'est la troisième ou quatrième ville de France à ce moment-là. Et là, il se forme à l'art militaire, à l'histoire, à la littérature. Il profite aussi du fait que le prince de Condé, son cousin, meurt.
Son cousin. Mmh.
Et il va signer des ordonnances militaires.
Est-ce qu'on sait comment il se situe sur le plan religieux, au milieu des combats, au milieu des tensions ?
Alors, il a beaucoup évolué, c'est évident. Il n'est pas d'une foi protestante ardente.
C'est pas un radical, comme on dit aujourd'hui.
Exactement, exactement. Oui. C'est donc il obéit à sa mère. Sa mère lui envoie des lettres, le traitant même comme un gamin. À 15-16 ans, il est traité par sa mère comme un gamin. C'est la grande affaire, ça va être évidemment ce mariage avec Marguerite de Valois. Ils ont le même âge, c'est la fille d'Henri II et de Catherine.
La fille du roi de France.
La fille du roi de France. C'est une jeune catholique qui est une jeune femme raffinée, coquette, narcissique, infatuée de sa beauté, car elle est fort belle, qui a été amoureuse du fils du duc de Guise, qui est devenu duc de Guise.
Le duc de Guise, mais, qui est un ultra-catholique.
Qui est un ultra-catholique, qu'on appellera le Balafré.
Voilà.
Le père et le fils, d'ailleurs, s'appelleront le Balafré.
Donc, pour ce mariage entre une catholique et un protestant, il a fallu demander une dispense au pape.
Alors, voilà. Et puis, Henri, lui, est très différent de cette jeune femme, sur laquelle on a écrit aussi beaucoup de bêtises. Mmh. On a exagéré énormément son comportement amoureux. Là, il y a eu Eliane Viennot a écrit une biographie montrant que il fallait surtout pas exagérer ce côté-là. Mais c'est une précieuse ou pré-précieuse, on pourrait dire. Alors qu'Henri est assez gauche, provincial,
paysan.
Très, voilà, on l'appelle Loup Moulier des Barbastos, c'est-à-dire le meunier de Barbaste. Il est proche des paysans, on l'a dit, et il est donc projeté dans cette cour où il s'est toujours un peu senti excentré, mal à l'aise. Le mariage va faire venir à la cour et donc à Paris des protestants en grande quantité, des gentilshommes protestants armés qui arrivent, et c'est là que va se passer quelques jours après le fameux massacre de la Saint-Barthélemy.
Alors,
qui est
un moment essentiel, un moment très très important. Il faut rappeler la date de 24 août 1572. Alors vous écrivez, Jean-Christian Potifis, que la Saint-Barthélemy, on ne sait pas bien d'où ça vient. C'est peut-être un coup de billard par des provocateurs ultra-catholiques, écrivez-vous, ou bien une frappe préventive décidée par le roi et sa mère pour éliminer seulement les chefs séditieux.
Oui, c'est ça.
Comment savoir ?
Bah, il y a eu des recherches qui ont été faites. Je pense aux travaux d'Arlette Joanna, par exemple, qui a fait un très bon travail sur là-dessus et qui montre que le roi de France et Catherine, d'ailleurs, souhaitaient au départ la réconciliation. Ce mariage, il a pour but de réconcilier catholiques et
protestants. On était dans une ambiance festive et réconciliatrice. Et puis tout a basculé.
Et tout bascule parce que un attentat contre Coligny, l'amiral Coligny,
Gaspard de Coligny.
Se produit et on ne sait pas qui le commandite. On pense que c'est plutôt en effet des gens proches du duc de Guise, mais pas le duc de Guise. Et là, le pouvoir royal, Charles IX et Catherine, perçoivent le danger. Il y a 800 gentilshommes armés, je l'ai dit. Il y a à peu près 8000 protestants, donc c'est très peu sur une ville de Paris qui compte à peu près 300 000 habitants. Donc c'est peu, mais ces 800 gentilshommes armés, qui sont des proches d'Henri, qui sont venus pour le mariage.
On imagine la tension.
Mais qui sont, qu'on considère comme des gens très dangereux. D'où la décision, parce qu'on a le sentiment qu'ils vont faire un coup d'État.
D'accord.
Un putsch, on dirait aujourd'hui. Bon, ils vont s'emparer du pouvoir. Et là, pour venger l'amiral de Coligny. D'où décision prise dans l'urgence de massacrer ces quelques chefs, en fait, quelques dizaines voire centaines de têtes pour ramener l'ordre.
Et puis,
mais c'est à partir de là que c'est parti en vrille, comme vous dites. La population parisienne, très catholique, se lance dans des massacres. Et il y a donc à peu près 3000 morts à Paris.
Une ivresse totale.
Et puis, en province, ça se propage en province. Et on estime à peu près 7000 morts. Donc, en total, 10 000 morts.
C'est une absolument une, considérable.
Une tragédie.
Absolument considérable, un traumatisme.
Absolument. Et c'est là où on peut dire que c'est la rupture très importante, ce qu'on appelle l'ordre de l'amour. C'est-à-dire, le roi aime ses sujets. Le roi ne prend pas parti pour tel ou tel clan, pour telle ou telle faction. Et là, il a donné un coup de barre du côté des ultra-catholiques. Et c'est donc une grande tragédie.
Donc là, la fracture est ouverte.
Voilà.
Et la fracture est ouverte.
On attend quelqu'un saigne. Qui va...
Voilà, alors, quelle a été l'attitude de Henri, donc, qui était présent, puisqu'il venait juste de se marier à Paris avec ses amis protestants? Quelle est son attitude pendant et après la Saint-Barthélemy, Jean Christian, petit-fils?
Donc il est protégé du fait qu'il est évidemment l'époux
de Marguerite de Valois.
Mais on va très vite le sommer de se convertir avec le prince de Condé qui est là à ses côtés. Et on leur dit, voilà, c'est la mort ou c'est la Bastille. Alors, ou c'est la conversion. Donc Condé va se convertir, faire semblant de se convertir assez rapidement. Henri, et c'est là où on commence à voir son caractère, dit « Oh, attendez, moi j'ai besoin d'être instruit, de savoir ce que c'est, quelles sont les différences entre le catholicisme et le protestantisme. » Alors qu'il le sait très bien, il l'a vécu de l'intérieur.
Donc c'est son habileté politique.
Exactement, il a eu des gouverneurs et des précepteurs qui étaient de religions différentes, il savait parfaitement ça. Mais ça va être d'ailleurs une de ses constantes, freiner, temporiser, jusqu'à sa conversion. Final, et là, il changera complètement.
Il a qualifié, on le verra tout à l'heure, de saut périlleux.
Voilà.
Donc, quand même, il avait conscience quand même de la...
Mais là, donc il dit, j'ai besoin d'être instruit. Et puis, il va donc finir par le faire. On lui promet Monts et Merveilles, et il va aussi, bien sûr, céder l'ordre du Saint-Esprit. Il va céder, il va se convertir. Mais au fond, il dissimule, il y a une très grande force de dissimulation. Il apprend à ce moment-là, il vit au Louvre avec la reine Margot, et il est en fait très très mal à l'aise.
Donc est-ce qu'on peut dire qu'il est un spécialiste du double jeu ou qu'il est un artisan de l'œcuménisme avant la lettre?
Je dirais plutôt du double jeu, mais en même temps, il est... assez proche de ce qu'on pourrait appeler l'œcuménisme, si on veut pousser les choses un peu loin.
Qui n'existait pas à l'époque, évidemment.
On est vraiment aux antipodes.
Oui.
Qu'est-ce qu'il pense véritablement?
Au fond. Dans
son
fort intérieur.
Il va redevenir, donc il va s'évader du Louvre. Il va descendre vers dans le sud-ouest. Et là,
chez lui,
va trouver des troupes protestantes, va se mettre à la tête de troupes protestantes, va pas se changer de religion tout de suite, mais il va le faire quand même au bout d'un certain temps. Et va à nouveau être assez tiède du point de vue de la religion protestante, parce qu'il y a aussi du côté des protestants beaucoup de fanatisme. Agrippa d'Aubigné, qui est un de ses proches, par exemple, ou du Plessis Mornay, qui sont de
donc il essaye de trouver une sorte de juste milieu.
Il essaye de voilà.
Il n'est pas tout à fait contre la présence réelle, semble-t-il.
Non, c'est ça. Oui. Il n'est pas vraiment protestant et il n'est pas vraiment catholique.
Voilà
son problème.
Mais c'est ce qui fait sa force, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est ce qui va faire sa force. Il croit en la messe et en la présence réelle. Bon, il ne croit pas trop en l'adoration du Saint-Sacrement. En revanche, donc c'est ce qu'on appelle la rémanence des saintes espèces en dehors de la messe. Mais il croit vraiment dans la transsubstantiation. C'est important.
Ce qui n'est pas tout à fait protestant.
Exactement.
Voilà.
Les luthériens ayant une attitude un peu intermédiaire. Il est aussi hostile au culte des saints, à l'existence du purgatoire. Il est douteux. Alors, quand il se convertira, finalement, il dira, bon, c'est pour leur faire plaisir, pour faire plaisir aux moines, je l'accepte.
Mais justement, arrivons-en là, Jean Christian petit-fils, à quelle occasion Henri de Navarre va-t-il devenir roi de France? Va-t-il prendre le pouvoir, recevoir le pouvoir?
Alors c'est très long évidemment à oui. expliquer parce que les rois se succèdent, mm-hmm. Charles IX meurt, Henri d'Anjou, duc d'Anjou qui est roi de Pologne va être intronisé roi de France,
il deviendra Henri III. Catholique.
Henri III
avec ses mignons bien connus.
Avec ses mignons oui. mais il n'était pas, alors faut bien le préciser, mm-hmm. Homosexuel, il a eu mm-hmm. des maîtresses, il était, mais là aussi comme il était assez précieux, qu'il aimait les beaux,
il prenait soin
les beaux
de lui-même.
Costumes. Mais voilà,
ce qui n'était pas le cas de tout le monde.
Exactement, à cette époque, mmh. et en particulier d'Henri,
voilà.
bien entendu.
Henri, qui sentait très fort.
Voilà, il sentait le gousset, comme voilà. on me disait.
Exactement.
Alors, c'est à la mort du dernier fils de Catherine, le duc d'Alençon, Anjou, qui est devenu duc d'Anjou, en avril 1584, que Henri III va reconnaître pour héritier son cousin et mmh. Henri de Navarre.
Donc là, il est aux portes du pouvoir.
Et là, il est aux portes du pouvoir. Mais évidemment,
mais il
est c'est pas facile parce que la papauté s'oppose à une telle prétention.
La papauté s'est déjà opposée à son mariage.
Exactement. Il a mmh. fallu obtenir des dispenses qui ont tardé. Mmh. Sixte Quint va même l'excommunier en septembre 1584, le pape. Alors, il y a des affrontements constamment. Et là, il faut...
C'est une guerre civile sans
c'est
fin.
C'est une guerre civile. Henri III perd quasiment son trône. Il est, mmh. il est exilé, il quitte Paris, s'enfuit de Paris. Et ce sont les Guises... Avec la Ligue,
les catholiques,
les ultra-catholiques qui prennent le pouvoir.
Et Henri va faire le siège de Paris.
Alors Henri III et le futur oui. Henri IV vont se réconcilier, mais après mmh. avoir combattu ensemble, donc c'est
voilà.
très compliqué.
C'est d'une complexité absolue, cette affaire.
Ils se réconcilient et là, on prépare le siège de Paris. C'est à ce moment-là que Henri III est assassiné.
Et est-ce à ce moment-là que Henri, futur 4, aurait prononcé ces paroles « Paris vaut bien une messe » dans Christian Petit-Fils ?
Alors, c'est là, oui. Pas tout de suite, pas tout mm-hmm. de suite, puisqu'on est en 1589, et de 1589 à 1594, eh bien, on continue de se battre. Henri IV...
Il faut dire que le royaume est à feu et à sang, quand même.
Le royaume est à feu et à sang.
Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité publique. Le peuple est complètement asservi par la violence.
Oui, absolument. Les massacres, et ouais. on parlait aussi des grands qui mmh. profitent de la situation pour se tailler des principautés quasiment indépendantes.
Et à géométrie variable.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Henri IV, à la mort donc, d'Henri III, il devient immédiatement Henri IV, hein, selon la loi de succession, mmh. mais il reste protestant.
Alors.
Et là, Henri III met deux jours avant de mourir. Il réunit les grands. Il leur dit, voilà mon successeur. Je souhaite qu'il se convertisse. Et les grands, une fois Henri III meurt, sont très mécontents de cette situation, notamment le marquis d'Eau, surintendant des finances, et puis tous les mignons, les anciens mignons.
Oui, car le pouvoir va revenir à un protestant.
Voilà. Et mmh. ils veulent imposer plusieurs choses. D'abord, la confirmation de leur prébende, privilèges, titres, fonctions.
Soyons pratiques.
Bien sûr. voilà. Ensuite, qu'ils se convertissent au catholicisme, et puis qu'il se soit un roi de réconciliation.
Donc là, la question est posée.
La question est posée. Henri IV ne peut pas, politiquement, se convertir immédiatement.
Parce qu'il se couperait de sa base protestante ?
Exactement. Mmh. Il se couperait de la base protestante, et il est quasiment sûr que les gens de la Ligue ne se rallieraient pas en disant, bon voilà, mmh. une conversion politique, c'est un hypocrite, on va sûrement pas...
Alors que fait-il ? Il procrastine conformément à sa tradition ?
Alors, oui. Il dit, je m'engage à me faire instruire encore,
encore.
Par un concile, ouais. par voilà. Et puis si on pouvait réconcilier en fait le catholicisme et le protestantisme, eh bien ça serait une bonne chose. Il n'y a pas grande différence pour moi.
Est-ce qu'il s'agit là d'opportunisme ou de génie politique, Jean-Christian Petit-Fils?
Génie politique, moi
oui.
je dirais. Génie
mmh.
politique. Il est très habile et il a donc signé par une proclamation. Il fait une proclamation mmh. à la mort d'Henri III, mais qui correspond à la demande des grands. Notamment, il accepte tout ce que les grands demandent. Et il dit, ben voilà, je me demande à être instruit. Son idée, à ce moment-là, c'est d'être un roi protestant d'une France catholique. J'ai dit, bien, finalement, il n'y a pas de grande différence. Moi, je serai le premier roi protestant de France. Et je vais le montrer par les victoires que je vais remporter.
Contre
Contre la Ligue, oui. Évidemment, contre le duc de Mayenne, puisque le duc de Guise, son frère, a été assassiné quelques temps auparavant, ce qui a déclenché d'ailleurs la mort d'Henri III, l'assassinat d'Henri III. Donc il se dit, je vais, avec l'appui de la Providence, suivre cette politique.
Donc c'est un pari politique.
Oui, et en même temps, il a confiance en la Providence. Si la Providence me donne la victoire, ça veut dire que j'ai raison.
D'accord.
Ça, c'est traditionnel dans ces époques. Ouais. Donc, alors la bataille d'Arc, d'Ivry contre le duc de Mayenne montre qu'il a raison. Et donc, il va se défaire un peu de l'étau dans lequel les grands veulent le tenir. Son idée, c'est d'instaurer un royaume absolutiste. C'est ça. C'est un homme autoritaire.
Mais pour tous les Français,
de réconciliation, mais il veut ne pas être l'otage des grands. Et c'est pour ça qu'il va différer sa conversion. Et il espère arriver à cet équilibre.
Alors sa conversion, dit-il, est un saut périlleux.
C'est un saut périlleux.
Donc il a conscience du risque.
Absolument. Et il va donc se faire... Alors il arrive quand même, faut dire, l'échec du siège de Paris. L'échec du siège de Rouen. Tout cela vont le conduire à se dire je dois absolument me convertir.
Il y a une nécessité politique.
Donc il est il va se faire instruire par Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, par Jacques David Duperron, évêque d'Évreux. C'est une sorte de conversion gallicane au départ, puisque la papauté maintient son excommunication. Mais voilà.
C'est pas le catholicisme romain.
L'archevêque de Bourges.
C'est le catholicisme franco-français.
Voilà.
C'est ça
et on va donc instruire Henri IV, qui va abjurer le catholicisme et à la messe de Saint-Denis en juillet 93.
Alors à Saint-Denis et ensuite il se fait sacrer non pas à Reims.
Mais à Chartres, en février 1594.
Pourquoi donc ?
Parce que Reims est occupé par la Ligue.
Voilà.
Donc c'est donc, le seul sacre des rois de France à Chartres.
Un
royaume morcelé.
Voilà. Alors on va faire, si vous voulez bien, avant d'envisager le mode de gouvernement du nouveau roi Henri IV, et voir avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, comment est-ce qu'il a réconcilié les Français. On va écouter un extrait musical qui va nous faire un petit saut dans le temps. On va écouter tout simplement un extrait du Requiem des rois de France, composé par Eustache Ducoroy, parce que ce Requiem a été joué lors des funérailles d'Henri IV. On parlera dans quelques instants de son assassinat par Ravaillac, sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Jean-Christian Petit-Fils. Eh bien, ce Requiem des rois de France, qui a été joué pour la première fois lors des funérailles d'Henri IV, ensuite sera joué systématiquement lors des funérailles de tous les rois jusqu'à Louis XV. On écoute ce Requiem des rois de France qui fut celui d'Henri IV.
Thank you.
Voilà, nous écoutions le Requiem des rois de France qui fut interprété pour la première fois lors des funérailles d'Henri IV. Henri IV qui est le héros de cette édition des Racines du présent avec son nouveau biographe Jean-Christian Petit-Fils qui publie donc cette magistrale biographie chez Perrin. Ce Requiem des rois de France dont l'auteur était Eustache du Corroy, pardon, était interprété par l'ensemble Da Camera sous la direction de Jean-Louis Michard au sein de l'abbaye de Chantelle.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Vous êtes toujours sur RCF et vous avez bien raison. Pour cette édition des Racines du présent, nous sommes en compagnie de l'historien Jean-Christian Petit-Fils et nous retraçons avec lui la biographie d'Henri IV qu'il vient de publier chez Perrin. Alors nous venons de voir que Henri IV vient d'effectuer ce qu'il a appelé un saut périlleux, c'est-à-dire que dans ce contexte de guerre de religion à répétition alors que le royaume est à feu et à sang, eh bien Henri IV a décidé de se convertir au catholicisme. Il vient d'être sacré à Chartres et non à Reims. Le véritable règne de Henri IV, écrivez-vous, Jean-Christian Petit-Fils, a commencé à partir de 1598, après la reconquête du royaume. Il faut bien dire que cette reconquête s'est faite lopin par lopin. Ça a pris du temps pour reconstruire territorialement.
Et ça a coûté très cher au roi. On est là dans le quoi qu'il en coûte déjà
à ce moment-là.
C'est-à-dire qu'il faut acheter les fidélités des grands, le duc de Mercœur qui est un ligueur en Bretagne. On lui promet des mariages avec le fils bâtard d'Henri IV. Tous les grands, y compris Mayenne, sont réconciliés et arrosés. Donc ça coûte très très cher.
C'était le prix de la paix.
C'est le prix de la paix. C'est une nécessité politique. Là encore, on voit qu'Henri est un grand politique parce que il ne lésine pas de ce point de vue-là.
Son objectif, écrivez-vous, Jean-Christian Petit-Fils, c'était de réanimer le cadavre de la France. L'expression est rude.
Oui, on se trouve après huit guerres de religion dans un état exsangue. Ouais. L'État n'existe plus.
Oui.
L'État n'existe plus.
Alors comment procède-t-il ?
Alors il va d'abord donc acheter les fidélités, donc conquérir son propre royaume, parce que au départ, à la mort d'Henri III, il ne maîtrise qu'à peu près un sixième du territoire. Donc ça a été une lente conquête. Et en effet, c'est à partir de 1598 avec deux événements. Le premier, 13 avril 1598, c'est l'édit de Nantes, préparé depuis longtemps. Alors, dans cet édit, qui d'ailleurs reproduit un certain nombre d'édits antérieurs, c'est un édit provisoire qui est scellé avec un sceau de cire marron non pas de cire verte.
Et donc
cire marron, c'est un édit provisoire. La cire verte, c'est un édit définitif. L'édit de Nantes n'est pas un édit définitif.
Ce qui permet plus tard sa révocation
par Louis XIV.
Par Louis XIV, d'accord.
Cet édit donc considère que le catholicisme est la religion d'État.
Néanmoins,
et établit la liberté de conscience pour les protestants, mais surtout fige la situation. C'est-à-dire que on considère qu'il y aura deux villes dans chaque bailliage et sénéchaussée, c'est-à-dire des petites circonscriptions, des cantons aujourd'hui on dirait, à l'exclusion de Paris qui sera entièrement catholique. Et puis il y a donc un certain nombre de villes où on reconnaît le protestantisme.
Un certain nombre relativement important, puisqu'il y a plus de 100 villes, semble-t-il, qui sont concédées aux protestants.
100 lieux de refuge, dont 51 places de sûreté. Autrement dit, des villes closes avec des troupes levées par les protestants, dirigées par des officiers protestants, en principe, et entretenues par le roi de France. Donc on établit un État dans l'État.
C'est ça. C'est une France en tache de léopard, en quelque sorte.
Voilà. Et on constitue une sorte de quatrième ordre. Il y a des trois ordres traditionnels, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Ben là, il y a une sorte de quatrième ordre qui a des privilèges.
On peut dire ça.
Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les brevets et annexes de l'édit de Nantes du 13 avril 1590.
C'était donc très fragile.
C'était très fragile. Il y a à peu près 1 200 000 protestants en France, donc sur une population de 16 millions d'habitants. C'est une minorité, mais une minorité qui dispose, compte tenu des circonstances, d'une partie de la France, notamment de grands croissants qui va du Poitou au Languedoc, Languedoc, et jusqu'à remonte au Dauphiné, vers le Dauphiné. C'est là donc une situation qui ne peut pas durer.
C'est ça.
Et il est bien clair pour moi que Henri IV, s'il avait vécu plus longtemps, aurait repris la guerre, à la limite, contre ses anciens coreligionnaires pour unifier le royaume. Puisque lui, c'est l'essentiel,
c'était
c'est
ça son
l'unité.
Objectif.
Alors l'unité. Le deuxième événement, c'est la paix de Vervins, qui intervient le 2 mai 1598, et qui permet à la France de revenir dans le jeu politique européen international, qui redonne à la France le statut de grande puissance. Donc déjà, c'est quelque chose de... Même si du point de vue des frontières, il n'y a pas de rectification de frontières très, très importante. On revient au traité de Cateau-Cambrésis, qui avait été assez humiliant, mais la France était sur le point de disparaître. Il faut pendant la Ligue, l'Espagne avait poussé la fille de Philippe II, Isabelle Claire Génie, que les États généraux qui s'étaient réunis à Paris étaient sous la pression de l'ambassadeur d'Espagne prêts à désigner Isabelle comme reine de France.
Ouais, donc la France était prête à être annexée en quelque sorte.
Annexée, exactement. Ouais.
Alors que là, donc Henri IV donc a rétabli la légitimité interne aussi bien que la légitimité internationale.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Mmh. Et on veut le voir manifester son autorité à l'égard des parlements qui sont très réticents. Il y a des protestants. Beaucoup au sein du monde parlementaire. Il arrive botté, armé. Ce que Louis XIV ne fera que copier Henri IV.
C'est le début de l'absolutisme.
Exactement. C'est le début de l'absolutisme. Pourquoi ? Parce que l'État se situe au-dessus, dans l'ordre temporel, bien entendu, au-dessus des religions.
Et ça durera jusqu'à la Révolution.
Ça durera jusqu'à la Révolution.
Mmh. C'est comme ça que notre pays s'est construit.
C'est Costa,
l'absolutisme a été...
Voilà, et que si on peut dire commence un peu une notion de laïcité, puisque l'État se présente, mais il reste catholique, bien entendu.
Naturellement.
Mais il se situe au-dessus des choix religieux.
Alors il a fallu lutter contre ce que vous appelez, Jean-Christian Petit-Fils, les grands rapaces, notamment Biron, qui finira décapité.
Le maréchal de Biron. On voit que ces grands continuent.
Ce combat n'est jamais gagné, en fait.
En dépit des sommes prodiguées par Henri IV, des charges, des fonctions, eh bien, il y a toujours ces ambitions. Et le maréchal de Biron, qui a été un maréchal d'Henri IV, va trahir le roi, va s'entendre avec l'Espagne. Et là, malgré plusieurs avertissements d'Henri IV, il persistera. Et donc, Henri IV le laissera décapité.
Henri IV sera inflexible au nom, justement, de la nécessaire restauration de l'État.
Absolument.
C'est ça qui va le conduire. Alors, en même temps, vous nous expliquez, Jean-Christian Petit-Fils, que, certes, ce roi a voulu reconstruire le pays, reconstruire cette double légitimité nationale et internationale, mais en même temps, écrivez-vous, il n'a pas attaché beaucoup d'importance aux institutions.
Oui.
Il a concentré en lui, dans ses mains, les attributs du pouvoir.
Oui. Ça s'explique par les circonstances, il faut bien voir. C'est au départ, c'est une sorte de régression. Nous sommes dans une monarchie à cheval. Le roi est constamment à la tête de ses troupes, en déplacement, et donc même devenu roi de France, il poursuit ce comportement, au point qu'on voit un secrétaire courir après le roi, qui est à cheval, qui va partir, pour lui faire signer un ordre royal. Donc, il tient son conseil en se promenant dans les jardins de Fontainebleau, avec son principal ministre qui est là, avec Villeroy qui s'occupe des affaires étrangères.
C'est l'homme du bilatéral, c'est
exactement. Ça. Et puis, il n'y a pas de franche discussion. On ne s'oppose pas trop au roi. Le roi écoute quand même. Il est tellement proche des gens qu'il connaît davantage les problèmes que ses ministres. Donc, il impose à ses ministres. Donc là, il y a un déficit institutionnel qui ne sera comblé que par ses successeurs. Mais nous voyons donc arriver ce qu'on appelle l'absolutisme, l'absolutisme monarchique. Bien entendu, tous les rois de France ont été des rois absolus, dans le sens qu'ils ne dépendent que de Dieu. Mais jusqu'à Henri IV, il y avait un certain équilibre qui existait. À partir d'Henri IV, la France se centralise.
Et notamment le rôle des parlements locaux.
Subordonné à l'autorité royale. Donc Henri IV initie ce qu'on appelle l'absolutisme royal qui va durer en effet jusqu'en 1789.
Et alors on assiste à ce paradoxe que vous décrivez dans votre biographie d'Henri IV, Jean-Christian Petit-Fils, que vous publiez chez Perrin, c'est que ce roi qui, après son assassinat par Ravaillac, est devenu très très populaire, est devenu une sorte de mythe paternel de la vie politique française. En fait, vous nous expliquez que durant son règne, il n'a pas été si populaire que ça. Il a dû affronter toujours l'opposition des Huguenots, des révoltes fiscales.
Oui.
Ça s'est mal passé quand même.
Alors les révoltes fiscales, on le comprend très bien parce que le roi veut centraliser.
Oui.
Et donc, instituer un impôt qui s'appelle la pancarte. Alors contre la pancarte.
Oui.
C'est bon. Les gabelles. Mmh. Voilà. Alors on se lève contre, aujourd'hui ce serait la taxe carbone.
Voilà.
Il y a des mouvements.
Ou les APL.
Des mouvements.
Il y a quand même des constantes dans tout ce que vous écrivez, Jean-Christophe.
Bien entendu, bien entendu.
La centralisation du pouvoir.
Oui,
les révoltes, les leviers des révoltes populaires.
Oui, tout à fait. Alors, faut pas tomber dans l'anachronisme.
Voilà.
Faut faire attention.
Mm-hmm.
Faut bien voir que, par exemple, certains aujourd'hui nous parlent de guerre civile. Nous allons vers la guerre civile.
Oui, on entend ça.
Nous ne sommes pas du tout dans la situation quand même
vous
du
qui
royaume
avez bien vécu
sous
les guerres civiles
d'Henri IV.
Vous dites qu'on n'en est pas là.
On n'en est pas là, mais il peut y avoir des menaces, en effet,
Il peut y avoir des explosions populaires.
Exactement.
Il peut y avoir ça.
Donc,
d'accord.
Il y a eu des explosions populaires, ce qu'on appelait des émotions populaires, mais tout ça va continuer sous le règne de Louis XIII, très fortement, les croquants, les va-nu-pieds. Ça va continuer sous le règne de Louis XIV aussi, et même encore sous le règne de Louis XV.
Il y a là une constante.
Il y a là une constante, c'est-à-dire le refus de l'unification du royaume, parce que les coutumes locales, les pesanteurs régionales jouent, et les grands aussi continuent. Les grands cherchent toujours leur revanche. Jusqu'en 1789, la révolution a été déclenchée par les patriciens, disait Chateaubriand.
Mmh.
Ils en ont été victimes immédiatement après, mais c'est eux qui ont eu la tête du roi, si je puis dire.
Un peu comme allez, je vais faire preuve d'anachronisme, un peu comme les présidents de région aujourd'hui.
On voit des forces centrifuges qui se manifestent en France.
Alors justement, moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser, Jean-Christian Petit-Fils. Vous avez étudié tous ces siècles d'histoire et la lente construction de notre pays, mais d'où vient en fait notre capacité à nous déchirer entre nous, que ce soit entre catholiques et protestants, que ce soit entre ceux qui sont partisans d'un État central ou d'un État décentralisé? La France a-t-elle toujours été fragile à vos yeux d'historien, Jean-Christian Petit-Fils ?
La France est très fragile, oui, c'est vrai, parce que c'est un combat constant que doit mener le pouvoir central pour unifier, pour réconcilier les gens. Et moi, je suis assez réticent à l'égard de la décentralisation telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce que on risque de créer de nouvelles féodalités.
De réveiller des forces centrifuges, c'est
exactement,
ça ?
Exactement. Oui. Nous voyons cela apparaître. Nous l'avons vu par ces régionalisations, cette régionalisation. Bien entendu, il faut pas tomber dans les excès d'un État jacobin qui décide de tout de Paris. Là, nous avons connu, évidemment, avec Napoléon Bonaparte, le summum de la centralisation. Il reste que, même si une décentralisation modérée est nécessaire et faire entendre le pouvoir local, trop de décentralisation risque de conduire à des excès, à des malversations, à des jeux malsains d'influence.
On le sait à travers l'histoire.
On le sait et on le voit même, on l'a vu très récemment.
C'est une tension consubstantielle à notre histoire.
Exactement.
Alors terminons-en, si vous le voulez bien, Jean-Christian Petit-Fils, avec Henri IV. Il est finalement, on le sait, assassiné en 1610 à Paris par Ravaillac. Pourquoi, comment vous avez étudié cet assassinat? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, il a fait l'objet d'une vingtaine de tentatives d'assassinat. Donc déjà, on voulait le tuer.
On voit cette ambiance de violence permanente.
Donc ce sont des catholiques fanatiques. Il y a eu Jean Châtel, qui est un étudiant des jésuites, et ça va conduire à l'expulsion des jésuites provisoires, mais enfin, malgré la décision, la volonté d'Henri IV de les conserver. Henri IV va donc être assassiné par un illuminé, un fou de Dieu, mais aussi surtout un fou tout court, d'Angoulême, qui a des visions. Quand il est en prison pour dette, il voit des hosties s'élever en l'air,
d'accord,
des brasiers.
Un illuminé qui n'a pas été téléguidé. On le sait
alors,
aujourd'hui.
Alors, la question est là. Attention.
Oui.
C'est que il fait 2-3 voyages à Paris. Il apprend que le roi va partir en guerre contre l'empereur et le roi d'Espagne pour des raisons politiques de soutien à des princes protestants. Mmh. C'est l'affaire de Clèves et de Juliers. Et là, il se dit, faut que je donnerai un dernier avertissement au roi. Il faut arrêter cette politique épouvantable. Et donc, il va tuer le roi. Il va trouver un couteau dans une hostellerie et il va tuer le roi rue de la Ferronnerie. Cela étant, on sait aujourd'hui, et j'ai trouvé en particulier une lettre d'un ambassadeur de Suisse à Paris qui nous le dit. Il y avait au départ à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols, tenue par, c'était une souveraineté, une co-souveraineté détachée un peu de l'Empire espagnol, mais qui était très proche de l'Espagne, donc par Isabelle et surtout l'archiduc Albert, son mari, la volonté d'arrêter le roi, et en particulier du côté de l'archiduc, de le faire tuer. On a là une lettre, on a aussi d'autres renseignements qui nous montrent qu'une équipe est venue à Paris en même temps que Ravaillac. Toute la question, c'est de savoir s'ils se sont rencontrés.
On le saura peut-être un jour. Une toute dernière question, Jean-Christian Petit-Fils, car nous arrivons au terme de cette édition des Racines du présent. 4 siècles après sa mort, Henri IV est resté très très populaire dans l'imaginaire collectif, alors qu'il ne l'était pas tant que ça, écrivez-vous, durant son règne. Comment expliquer ça? C'est parce qu'il a été assassiné ou voilà?
Alors, la légende henricienne, le mythe henricien, comme il y a un mythe Napoléon qui va naître aussi après Sainte-Hélène, ça apparaît, et bien entendu, à cause de l'assassinat. Mais il y avait des racines profondes aussi à cela, c'est que c'est un roi qui a, comme le dit sa belle-sœur Éléonore de Médicis, à se faire aimer des pierres elles-mêmes. Vous avez cité cette phrase-là.
Oui.
Il a, en dépit de son caractère, de son autorité, de sa ladrerie, parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour acheter les nobles, mais aussi il ne récompense pas ses compagnons. Il est assez égotiste, il faut bien le voir. On l'aime. On l'aime parce que il est truculent, il est proche du peuple, c'est un montagnard des Pyrénées et il le reste sur le trône.
Bon, donc finalement, voilà.
C'est un grand roi.
C'est un grand roi. Il reste un grand roi. Alors, il nous reste une poignée de secondes. Un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est un séducteur invétéré. Vous avez fait le décompte, Jean-Christian Petit-Fils. Vous lui attribuez une 60aine de maîtresses.
Oui, 56 maîtresses d'après les recherches des historiens, mais probablement qu'il y en a eu d'autres, évidemment.
Et à chacune, il faisait des promesses hallucinantes dans l'attente d'une annulation de son union avec Marguerite de Valois.
Et il a signé des lettres d'engagement comme quoi il se marierait au moment où ses ministres
négociaient. Toujours ce double jeu, toujours.
Le mariage avec Marie de Médicis. Mmh. Oui.
Voilà, donc écoutez, mille merci Jean-Christian Petit-Fils pour cette biographie absolument passionnante que vous nous proposez, une biographie qui fait près de 800 pages, mais qui se lit à cheval. Une biographie donc titrée simplement Henri IV, c'est publié chez Perrin. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Jean-Christian Petit-Fils. Je dis bien en pluriel car je rappelle que Jean-Christian Petit-Fils a publié toute une série de biographies des Bourbons. Hein, vous avez signé les biographies de Louis XIII, le fils de Henri IV, la biographie de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Donc vous êtes vraiment le portraitiste des 5 rois Bourbons d'Ancien Régime. Tout ça, c'est publié chez Perrin. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de RCF et vous pouvez bien évidemment nous écouter en baladéodiffusion, en podcast, où que vous soyez pendant le temps que vous voulez. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.